Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 19 janvier 2042 et bienvenue sur Radio Pas d'accord. On a piraté Graphite pour l'après-midi. Vous pouvez donc nous écouter sur 94.9 FM et graphite.net. Je suis Stéphane et dans le studio, il y a Paul, Damien, Timothée, Lisa et Martin. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Et puis un petit coucou à Nuhamel qui doit être dans le train et qui a aidé au travail que l'on va présenter. Alors, les militants solarpunk de Radio Pas d'accord ont donc hacké l'antenne pour venir vous lire les textes que les membres de l'université populaire, libre, ouverte, autonome et décentralisée, l'upload quoi, ont écrit durant toute cette semaine dans le cadre d'un atelier d'écriture à Compiègne. Alors, avant de démarrer, un petit point météo. Donc, il fait 24 degrés à Compiègne, petite alerte vent violent, n'attendez pas votre livraison en ballon dirigeable. Pour démarrer donc cette série d'émissions qui va durer toute l'après-midi, premier témoignage, Compiègne avant les années sobres. On va donc visiter une expo qui nous replonge loin dans le passé en 2024. Jingle.
À l'aide de ces quelques mots, je vais tenter de vous raconter cette journée importante pour Thomas et sa famille. Je n'ai pas choisi n'importe quelle journée, évidemment, mais vous vous en rendrez compte par vous-même au fil des lignes et peut-être comprendrez-vous pourquoi cette journée est également importante pour moi. Cela faisait plusieurs années que les citoyens et citoyennes avaient prévu l'exposition. Par crainte que celle-ci ne soit trop rapprochée des événements traumatisants, les habitants et habitantes avaient déplacé son inauguration jusqu'à aujourd'hui. Enfin, après 5 années, des affiches firent leur apparition devant la mairie, sur les places publiques et devant l'upload. Cependant, j'avoue que le titre ne faisait pas l'unanimité. Surtout pas à mes yeux. Compiègne avant les années sobres. Ça semblait atténuer la gravité de la période sombre que nous avions traversée, celle de l'effondrement. Thomas faisait partie des guides bénévoles, dévoués à consacrer de leur temps pour expliquer aux visiteurs et visiteuses ce qu'il s'était passé et pourquoi. Il était venu spécialement afin de faire découvrir à ses enfants l'exposition et de leur présenter tous les éléments à travers des images. Thomas rentre dans la première salle consacrée à la présentation et à l'évolution de l'upload. Placer l'upload en premier ne me paraissait absolument pas absurde. Après tout, c'est elle qui avait rendu tout cela possible. L'upload, l'université populaire, libre, ouverte, autonome et décentralisée, constituait le point de départ de toutes les évolutions positives des années sobres. Au début, l'upload était un projet étudiant dont le but était simplement de modifier drastiquement le système éducatif de l'époque. L'éducation présentait des lacunes. Les étudiants et étudiantes adoptaient un état d'esprit incompatible avec le risque d'effondrement que présentait la société et sortaient de leurs études avec une conception conformiste de ce que c'était que le savoir. Chaque étudiant et étudiante quittait l'institution en pensant que les maths, la physique ou la chimie reflétaient l'intégralité des connaissances. Initialement, l'upload servait d'abord de lieu central où les étudiants et étudiantes se rencontraient. Progressivement, elle avait regroupé non seulement des étudiants, mais aussi des habitants pour rassembler leur savoir et le transmettre aux autres. Tout cela s'était montré particulièrement utile dans les premières années de l'effondrement. Par la suite, elle était devenue un lieu communautaire, constitué de nombreux bâtiments, rendant ses frontières de moins en moins définies. Thomas et ses enfants arrivèrent devant la photo de l'ancienne mairie. On pouvait y voir un maire serrer la main du président de la République. Lucie, la fille de Thomas, se demanda.
Qu'est-ce qu'un maire et un président? Comment une seule personne pourrait-elle diriger tout un peuple? Comment pourrait-elle prendre des décisions pour chacune des personnes sans même les connaître? Et pourquoi élire des maires? À quoi servent-ils s'il n'y avait aucun pouvoir, ou presque?
Je vais essayer de te l'expliquer. Avant l'effondrement, toutes les décisions ou presque étaient prises à Paris. C'est ce qu'on appelait un gouvernement centralisé. Le président et son gouvernement prenaient toutes les décisions, et celles-ci étaient relayées par les préfets, puis par les maires. Ils n'avaient donc presque aucun pouvoir.
Mais il n'y a jamais eu d'autres formes de gouvernement avant?
Si, bien sûr, il y a eu différentes formes de gouvernement. Les plus notables sont la monarchie, où un roi gouvernait tout un peuple, la théocratie, où le gouvernement agissait au nom d'un dieu, ou encore l'oligarchie, où un petit groupe de personnes gardait le pouvoir entre leurs mains et prenait toutes les décisions. Et il y en a encore eu bien d'autres. Celle que nous utilisons actuellement se rapproche beaucoup de la démocratie athénienne, où une partie du peuple votait les décisions ensemble. La différence est que notre forme de politique inclut tout le monde, alors que les Athéniens excluaient les femmes et les esclaves de leurs décisions.
Et pourquoi avons-nous changé de politique ?
Lors de l'effondrement, l'ancienne organisation n'a plus fonctionné. Chaque région a connu des problèmes différents, notamment des pénuries d'eau, de nourriture, des inondations ou encore des incendies. Mais comme ce fonctionnement obligeait le président à prendre des décisions pour tout le monde et en même temps, il n'a pas pu répondre à tous les problèmes. Et c'est dans la panique qu'une nouvelle loi est passée, cédant la majorité des prises de décision à une échelle plus locale, ville par ville. Mais pourquoi est-ce que tu te poses toutes ces questions à 12 ans, toi ?
Cette décision avait été prise à peine 20 ans auparavant. Et pourtant, elle avait tout changé. Cette politique décentralisée avait permis la mise en place d'un vote libre et populaire. Désormais, chaque loi était proposée par les citoyens et citoyennes, puis votée dans un forum. Et l'ensemble des instances des villes sont assurées par des élus, au service des citoyens, renouvelés régulièrement.
Thomas parcourait l'exposition à la recherche de ses enfants. Un peu inquiet, il s'arrêta à côté d'une personne âgée. Celle-ci observait une photo d'un porte-conteneur chinois. La personne âgée se nommait Francis. Du haut de son 1m90, il portait un béret bleu marine et une salopette vert bouteille. Ses manches, retroussées, laissaient apparaître des tatouages. Thomas lui fit signe et Francis lui esquissa un sourire.
Bonjour monsieur, savez-vous que j'ai déjà travaillé sur un de ces bateaux ? Dans ma jeunesse, si le monde tournait, c'est parce que ces gros engins mécaniques flottaient.
Oui, bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces types de bateaux ont complètement disparu.
Vous savez, vous avez sûrement dû observer ces changements aussi, mais la principale raison de leur disparition, c'est la mise en place du nouvel indice qui a supplanté le PIB. À cette époque, la quantité d'échanges de nature économique réalisée par un pays produisait sa valeur. Ainsi, on observait une intensification des échanges, une délocalisation de la production, bref, on faisait des échanges pour faire des échanges. Cette dynamique s'est totalement inversée. Il fut voté de non plus mettre en valeur le nombre croissant d'échanges économiques, mais le faible nombre de celui-ci. Les pays se sont ainsi mis en concurrence dans des objectifs d'autonomie de leurs citoyens et citoyennes. Moins pays se reposent sur une centralisation des productions, c'est-à-dire plus ces citoyens et citoyennes sont autonomes dans la réalisation de leur quotidien, plus ces pays sont mis en valeur.
C'est vrai, j'étais encore assez jeune lors de ce renversement. Mais j'avoue que je ne vois pas trop le lien direct avec la disparition des porte-conteneurs.
Ben ça, c'est grâce à un autre indice. Il est encore présent aujourd'hui, mais il est si bien incorporé par tout le monde qu'on a tendance à l'oublier. Même moi, j'en ai oublié le nom.
Vous parlez pas de l'indice de maniabilité, non ?
Oui, c'est ça, c'est exact. L'indice de maniabilité. En fait, il permettait d'observer la dépendance d'une société à une technologie, elle-même dépendante de ressources, d'énergie non humaine. Le propos, c'est de dire que l'univers technique que produit l'homme doit se baser sur les capacités physiques de l'homme, et non sur un asservissement de la nature, comme une ressource. De cette vision, il en découla une décroissance forte dans les usages des technologies à boutons. Vous savez, celles où on appuie sur un bouton et ça marche tout seul, sans vraiment savoir comment, mais ce que l'on sait, c'est que ça consomme un équivalent d'énergie non humaine.
Et de cette manière, tous les procédés automatiques, les moteurs énergivores et tous ces autres éléments techniques superflus ont disparu progressivement. Ça me revient maintenant. C'est tout de même fou qu'on ait pu penser de cette façon. Un homme qui vit sans la nature, ça paraît impensable de nos jours.
Thomas sourit une dernière fois à Francis, puis le quitta. Perdu dans ses pensées, une annonce au haut-parleur le ramena à la réalité.
Le papa des petits Luca et Lucie est attendu à l'accueil.
La vie de Thomas s'inscrit dans une histoire plus globale. Avec l'effondrement, ce sont l'ensemble des fondements sur lesquels reposait la société qui se sont effondrés. Une société servicielle et fonctionnaliste qui s'est ordonnée en classes sociales et métiers, le tout soumis au principe d'une hiérarchie verticale. Avec la raréfaction des ressources et l'augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles, les métiers sont devenus inutiles, la chaîne serviciale s'est brisée. Afin de reprendre de l'activité, les humains se sont réinventés, ils ont imaginé une société organique où chacun, chacune, possédait une multitude de savoirs. Ces savoirs sont partagés dans les communs. De cette manière, l'upload permet la formation au principe d'une vie autonome à un large public. Le citoyen apprend de cette manière à s'approprier les moyens de production, de subsistance ou pédagogique. Ces concepts sont réemployés dans la ville, à travers des ateliers communaux de production, autrement appelés des tiers-lieux. Ces lieux alternatifs sont l'extension de l'upload. Ils permettent le partage des connaissances artisanales, ainsi que la mise en commun des outils de production et de réparation. L'arrivée de ces nouveaux espaces m'a fait grandement du bien. Il a renforcé le lien entre mes habitants et m'a permis de mettre en avant des pratiques non destructrices de mon milieu. Dans la dernière salle, une stèle était placée au centre de la pièce. Un panneau à sa droite donnait les explications suivantes.
L'effondrement est né de l'accumulation de différents facteurs. Au début du XXIe siècle, l'amplification des problèmes sociaux, sociétaux et l'absence de remise en cause du système économique capitaliste et l'inaction face aux enjeux environnementaux ont été le terreau fertile entraînant le déclin de la société. Une période sombre durant laquelle la raréfaction des ressources et la destruction du système économique par une récession qu'on n'a pas su empêcher ont mis à mal la souveraineté alimentaire et l'accès aux soins de chaque individu, d'autant plus fragilisé par la haute fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. Les individus ont vu leur mode de vie se métamorphoser, se dégrader, ne pouvant plus se projeter dans l'avenir, devant lutter pour survivre, pour répondre à leurs besoins de première nécessité.
Presque ému par tous ces mots, je vis Thomas et ses deux enfants quitter l'exposition, le cœur plein d'espoir pour cette future génération. L'exposition était belle et poignante et montrait tout à fait à quel point il était important de ne pas tomber à nouveau dans nos anciennes habitudes. J'attends avec impatience la prochaine exhibition, mais je doute qu'elle soit plus intéressante qu'une exposition à mon honneur.
Ceci était une émission fiction proposée par l'Université de technologie de Compiègne, Framasoft et Picasoft. L'émission est le résultat du cours d'intersemestre Upload Solarpunk organisé à l'UTC, dont vous pouvez retrouver le déroulé sur librecours.net. L'Upload est un projet de Framasoft, une association d'éducation populaire, qui propose des outils web alternatifs à ceux des GAFAM, des formations à la culture libre et plein d'autres choses. Picasoft est une association compiénoise d'éducation numérique libre. Les textes écrits par les étudiantes et les étudiants seront publiés sur framablog.org et blog.picasoft.net. Vous pouvez suivre le tout sur le média social Mastodon, hashtag SolarPunk et hashtag Upload. Vous pouvez nous réécouter également sur le média alternatif PeerTube. Merci à Paul, Damien, Timothée, Lisa, Martin, Numaël et tous les autres intervenants. Et on se retrouve vers 13h pour une autre émission.